Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn.
Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Ici, vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale, d'adoption et de bien d'autres termes qui accompagnent la conception de nos familles. Vous entendrez aussi, et surtout, des familles homoparentales, coparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire, au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de notre quotidien qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Vous écoutez l'épisode 4 de la saison 3. Vous dire que cet épisode ne m'a pas bouleversée serait un mensonge, d'autant qu'il touche à l'une de mes plus grandes peurs. Vous me rassurerez sûrement en me disant que c'est irrationnel, mais la perception de la composition de nos familles face à l'engrenage des services sociaux me fait frissonner d'angoisse. J'ai toujours fui les services de la PMI particulièrement, ou les regroupements entre parents et professionnels organisés par les services municipaux, tant j'avais peur d'être jugée. Et c'est toujours le cas. Vous le savez, je crois que nous avons tous à cœur de prouver plus fort et de convaincre encore plus que nos enfants vont bien. Parce que systématiquement, si ce n'est pas le cas, le couperet sera sans appel. On assimilera la difficulté constatée à un manque inévitable dans la vie de nos enfants. En enregistrant cet épisode, j'ai découvert la magnifique histoire de Cécile, Laetitia et Hayley, qui comme à chaque fois m'émerveille. Mais j'ai aussi découvert le revers de la médaille de l'adoption au Royaume-Uni, ce fameux revers qui a chatouillé mes peurs. Je n'ai pas pu faire autrement que d'imaginer ce qu'avait vécu la famille biologique d'Hayley, en même temps que ce que vivaient Cécile et Laetitia. Deux parcours difficiles réunis par un enfant. Impossible de ne pas faire le parallèle avec le parcours français, et ainsi de mieux comprendre l'attente si longue et certaines décisions prises en France. Il n'y a pas d'idéal quand cela concerne le placement d'un enfant. L'idéal serait qu'aucune famille ne soit dysfonctionnelle et que chaque enfant puisse être accueilli avec amour. Malheureusement, on le sait, ce n'est pas ce qui se vérifie. Je vous laisse découvrir le témoignage de Cécile et je vous retrouve sur le compte Instagram du podcast @lesenfantsvontbienpodcast pour échanger, car j'en suis sûre, vous allez avoir besoin d'en discuter. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Cécile.
Bonjour Constance.
Je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible pour cet enregistrement. Je précise que je t'ai un peu sauté dessus suite à un petit commentaire sur Instagram que tu as fait suite à l'épisode sur l'adoption. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter et me présenter ta famille ?
Moi c'est Cécile, je suis en couple avec Laetitia depuis 13 ans maintenant. On a adopté une petite fille qui s'appelle Hayley et qui va faire 4 ans en janvier. Et voilà, on l'a adoptée en 2018, donc ça faisait déjà presque 10 ans qu'on était ensemble avec Laetitia. Et voilà, on a une petite fille et c'est nous trois, la famille, c'est tous les deux.
Elle est arrivée, oui, tu m'as dit, elle est arrivée en 2018. Hayley, il y a une chose que tu n'as pas précisée, où est-ce que tu habites ?
À Londres.
Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons traiter de l'arrivée d'Hayley chez vous et donc de l'adoption en Angleterre. C'est bien ça ?
Oui, c'est ça.
Super. Alors, pour commencer, peut-être que tu connais un peu ma trame. Est-ce que tu peux commencer par me raconter comment vous vous êtes rencontrée avec Laetitia ?
Laetitia, c'était à Aix-en-Provence, en France. Je travaillais, j'étais manager dans une boulangerie en complément de mes études. Et Laetitia était ma boss.
D'accord.
Et voilà, j'ai eu un gros coup de foudre sur Laetitia. Et elle m'a fait ramer. Elle m'a fait ramer pendant 2 ans. Et finalement, voilà, je sais pas, moi j'ai toujours su en fait que c'était elle. Et elle a mis un peu plus de temps à savoir que c'était moi, mais j'avais raison au final, donc c'est ça le principal. Et voilà, donc on s'est rencontrés à Aix-en-Provence, on travaillait ensemble.
D'accord, super. Et donc, du coup, toi, tu t'es tombée amoureuse de ta boss et elle t'a fait ramer pendant 2 ans.
C'est
vous,
ça.
Vous travaillez toujours ensemble quand vous avez fini par vous mettre ensemble ou vous étiez en contact?
Oui, on était encore ensemble quand on s'est mis ensemble, on a continué à travailler ensemble, mais après notre patron de l'époque l'a su et ça a fait beaucoup d'histoires, les gens ont beaucoup parlé, donc du coup on a décidé de quitter le travail et on a toutes les deux démissionné en fait. On a décidé de rester ensemble, mais on a toutes les deux démissionné de ce poste. Et on est parti vivre à Montréal, au Canada. Ça a été une grosse décision.
Waouh! Bon, alors je peux te dire, si je peux me permettre d'apporter ma petite contribution, que je pense que tu as bien fait de quitter ce poste.
Oui, c'était vraiment...
Parce que c'était pas sain.
Non, c'était pas sain du tout. Et voilà, les gens parlaient beaucoup. C'était en 2008, donc c'était encore assez tabou. On était toutes les deux ensemble, les deux boss. J'avais eu le poste, enfin... Tu vois ce que je veux dire, ça parlait beaucoup pour rien. Mmh. Donc voilà, donc on a fait un choix, on a fait le choix de choisir notre couple, de se laisser une chance, et on est parti vivre à Montréal au Canada, où on est resté 4 ans et demi.
Waouh, 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 raconte-moi, parce que c'est ça, c'est un rêve.
Alors à l'époque, alors je dis bien à l'époque, hein, parce que maintenant c'est plus du tout la même chose, c'était assez facile de partir en PVT, permis vacances-travail, dans des pays, donc plusieurs pays sont ouverts au PVT, l'Australie, le Japon, mais pour l'Australie, Laetitia à l'époque avait déjà plus de 30 ans, et je crois que la limite pour demander un PVT était 30 ans, donc c'était pas passé, notre rêve c'était vraiment l'Australie, et donc du coup, Montréal, au niveau de l'âge, c'était jusqu'à 35 ans, donc ça passait. Moi, j'avoue que mon niveau d'anglais était pas terrible, terrible à l'époque, donc ça me rassurait d'être à Montréal, d'avoir toujours ce côté francophone, et en même temps d'améliorer l'anglais, parce que bien sûr, l'anglais est très courant là-bas, et il faut quand même être bilingue dans la vie de tous les jours, donc c'était un côté rassurant, et puis voilà, c'était le rêve un peu américain, entre guillemets, c'était partir découvrir une autre culture, découvrir un autre pays. Donc voilà, on a fait les valises et puis on s'est mis ensemble en novembre 2008. On est parti en janvier 2010. Donc pas très longtemps après, une petite année après.
Super. Ouais. Et vous faisiez quoi là-bas, du coup, comme vous avez trouvé tout de suite un métier, enfin un travail, pardon?
Alors, on a trouvé aussi dans la restauration, en fait, dans la boulangerie, c'est là où on s'était rencontrés sur Aix-en-Provence. Mais le poste finalement ne nous a pas convenu en fait sur place. Hein. Donc Laetitia a trouvé un autre poste dans un café. C'est vraiment son domaine, la restauration. Elle est chef pâtissière de métier, mais à ce moment-là, elle n'avait pas encore son diplôme de chef pâtissière. Elle était vraiment dans tout ce qui était café. Donc elle a trouvé un poste de manager dans un café. Et moi, je me suis retrouvée dans une association pour personnes ayant une déficience intellectuelle. Donc
d'accord.
Vraiment par hasard, j'avais aucune expérience, mais là-bas, c'est vraiment la mentalité c'est pas le diplôme comme on peut le voir souvent en France. On laisse la chance aux gens, donc on va laisser
la chance. Une personnalité.
Voilà, exactement. Et l'entretien s'est très, très bien passé. Et on m'a laissé avoir ce poste et j'y suis restée presque 3 ans. Je me suis éclatée. C'était vraiment cool. C'était vraiment sympa. Ouais.
Est-ce que pendant ces 4 ans, en tout cas, enfin, est-ce qu'à ce moment-là, donc là, vous avez expérimenté la vie ensemble, vous avez expérimenté en plus une expatriation, donc c'est pas simple, hein, quand même, dans un couple.
Non.
Est-ce que vous avez évoqué, à un moment donné, la parentalité?
Alors oui, on va dire qu'à ce moment-là, c'est Laetitia qui en parlait le plus. Elle avait envie d'avoir notre premier enfant à ce moment-là, elle voulait le porter, elle voulait se lancer un peu dans les démarches PMA, mais en effet, avec l'expatriation, être loin de la famille, moi, je me sentais pas prête à ce moment-là, en fait. Sentais vraiment pas prête à commencer une famille. Donc, du coup, on a juste laissé le projet de côté et on a pris un peu la... C'est un peu à ce moment-là qu'on a pris la décision de rentrer en Europe. Alors, on voulait pas rentrer en France, mais on voulait se rapprocher des familles, se rapprocher un peu, parce que c'était difficile aussi parce que nos familles n'étaient pas vraiment au courant officiellement de notre relation, donc c'était difficile quand même de se dire on va commencer une famille, mais nos parents ne savent pas officiellement qu'on est en couple. Ça allait trop vite, on était trop loin pour pouvoir en discuter sereinement avec nos familles et officialiser les choses entre nous deux avant d'aller de l'avant. Donc voilà, pour moi, c'était trop tôt, ça allait trop vite. Et donc voilà, j'étais pas prête à ce moment-là, et c'est un peu à ce moment-là qu'on a commencé à décider de rentrer en Europe, voilà.
D'accord, donc pas en France, a priori, au niveau de la décision ?
Non, vraiment pas. Alors ça, c'est vraiment quand on part à l'étranger, on n'était vraiment pas prête l'une comme l'autre à retourner en France, mais vraiment pas. Je pourrais pas expliquer pourquoi, parce que par contre, maintenant, on est prête, hein, on est sur le point de rentrer en France, mais à ce moment-là, on ne l'était pas encore. Mm-hmm. Et Laetitia avait déjà vécu à Londres 5 ou 6 ans avant qu'on se rencontre. Elle me dit, mais tu sais, Londres, c'est vraiment une ville cool, ouverte, on sera plus proche, on pourra rentrer en week-end finalement en France, voir nos familles, et en même temps, on sera loin, on sera dans une... Elle me dit, tu devrais essayer la mentalité anglophone, tu verras, je suis sûre que tu vas aimer. Moi, rien qui me dérange vraiment. Je dis, d'accord, mais écoute, pourquoi pas. Pourquoi pas Londres après tout. Finalement, ça me convenait parce que je me rapprochais de ma famille aussi, ça me manquait quand même un petit peu. Donc, je me suis dit, bon, ben voilà, on rentre à Londres et on est arrivé à Londres. Voilà.
Ok. En quelle année, du coup ?
2014, ok. Ouais, 2014. Et à ce moment-là, c'est moi qui voulais un enfant.
D'accord, ok. Et alors, ouais, du coup, comment vous avez... Parce que donc 2014-2008, tu me disais, elle avait 30 ans, Laetitia. Donc là, elle devait avoir quoi, 35 ans ?
Ouais, 35. Ouais, d'accord. 30. Ou un peu plus, je ne sais plus. Alors, on va faire le calcul, elle est née en 76. Elle avait déjà un peu plus de 30 ans, hein, je crois, parce que là, elle a 46, je crois. Je suis très très mauvaise en calcul. Enfin bref, je sais pas. Ah bon, quand on est rentré, c'est à ce moment-là, c'est moi qui voulais un enfant.
D'accord. Donc toi, ça y est, t'étais prête.
Voilà. Elle, plus du tout. Elle me dit que c'était son... C'est un peu bizarre de dire ça, mais peut-être que c'était un peu son horloge biologique. Elle avait autour de 35 ans quand vraiment elle a vraiment eu envie de porter, quand on était au Canada, et envie de porter cet enfant. Et ça lui avait un peu passé. Elle s'approchait de la quarantaine. Elle avait plus forcément envie. Et donc là, c'est moi qui avait vraiment, vraiment, vraiment envie d'avoir un enfant à ce moment-là. Mm-hmm. Et j'ai commencé à avoir de très, très grosses douleurs, enfin que j'ai toujours eu, mais vraiment de très, 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 très grosses douleurs au niveau du ventre. Et ça a vraiment été très difficile à vivre. Et en fait, à force de faire des examens, on m'a découvert une endométriose profonde, ovarienne profonde. Et donc là, en discutant avec Laetitia, on s'est dit, ben, ça va être difficile, quoi, parce que déjà je prends toujours des traitements assez forts, et finalement je me sentais pas d'attaque pour une PMA, pour les hormones, je savais pas vraiment à quoi m'attendre, mais je savais que ça risquait d'être un petit peu difficile pour moi de tomber enceinte. Donc du coup, j'avais vraiment pas le courage à ce moment-là de me lancer là-dedans. Le diagnostic d'endométriose venait de tomber, j'avais vraiment pas le courage de me lancer.
Ouais, non, mais c'est sûr. Déjà, c'est difficile d'accepter ce diagnostic et ensuite de se mettre sous hormones pour bloquer l'endométriose. Donc, si t'en rajoutes, ça faisait trop, quoi.
Ouais, ça commençait à faire beaucoup. Ouais, ça commençait à faire beaucoup. Et c'est vrai qu'avec Laetitia, on avait vraiment toujours pensé à l'adoption. On avait vraiment, vraiment toujours pensé à l'adoption. Notre famille idéale, entre guillemets, quand on en parlait au début de notre relation, ça aurait été Laetitia portait le premier parce qu'elle était plus âgée, je portais le deuxième, et ensuite on adoptait le troisième. C'était toujours une idée
donc
qu'on
avait. C'était dans un coin de votre tête, ouais.
Voilà, c'était toujours dans un coin de notre tête, en fait. Et voilà, et c'est vrai que quand le diagnostic de l'endométriose est tombé, quand j'ai décidé de ne pas aller de l'avant avec la PMA ou avec tout ce que ça pouvait engendrer comme traitement, elle m'a dit, mais tu sais, on avait pensé à l'adoption, pourquoi ne pas se renseigner maintenant, pourquoi ne pas commencer, même sans commencer les démarches, pourquoi ne pas se renseigner et voir comment ça marche. Je dis, ben écoute, pourquoi pas. Et voilà, ça a commencé là, ça a commencé comme ça.
Est-ce que ça a été difficile pour toi de faire le deuil de cet enfant biologique que vous auriez pu avoir avec Laetitia ?
Ça l'a été, oui, ça l'a été. Pendant une petite année, je me suis dit, je le regretterai. Aujourd'hui, plus du tout. Peut-être parce qu'on n'avait pas encore notre fille et qu'aujourd'hui, à réfléchir, j'ai pas du tout envie de tomber enceinte ou vraiment à refaire. Enfin, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas envie d'avoir un deuxième enfant ou de tomber enceinte ou de quoi que ce soit. Mais oui, je pense que j'ai une période difficile où je me suis dit, tu le regretteras un jour. Oui.
Oui, parce que c'est pas le même process de s'orienter de base vers l'adoption ou de s'orienter vers l'adoption parce qu'on n'a pas réussi c'est très très
vilain
comme mot, parce qu'on n'a pas pu avoir accès à un parcours d'insémination, enfin de PMA, avoir un enfant biologique.
Non, c'est vrai. C'est vrai, mais non. Oui, il y a eu un moment où je voulais vraiment me lancer dans la PMA. J'étais vraiment en partie. Laetitia m'a dit, tu sais, les traitements vont être lourds pour toi. Je venais juste d'avoir ma première opération d'endométriose. Vous avez vraiment vu que mes ovaires étaient très abîmés. Donc, pendant ma première opération, donc elle m'avait dit, tu sais, ça va être difficile. Est-ce que tu vas être capable de gérer? Parce que l'endométriose, c'est aussi beaucoup d'hormones. C'est aussi beaucoup Donc, elle m'avait dit, t'es sûre que tu vas pouvoir gérer? Et j'ai mis du temps à me remettre de ça. Ouais, j'ai mis du temps à me remettre de ça. Mais aujourd'hui, ça va. Non, aujourd'hui, ça va. Élie, c'est ma fille, ça va, tout va bien.
Et au sein de votre couple, ça n'a pas été trop compliqué, justement, ce deuil?
Si, mais j'ai envie de dire qu'avec Laetitia, on a tellement eu de périodes compliquées que ça a juste été peut-être une autre étape. Mais non, je pense que l'adoption en elle-même a été plus compliquée. L'adoption. D'accord. Oui, le processus d'adoption a été plus compliqué pour le couple parce que c'est tellement de décisions, c'est tellement de l'arrivée d'un enfant de 9 mois qui chamboule complètement la vie. On l'a pas porté, donc on n'a pas eu le temps de se préparer de la même façon. Mm-hmm. C'est un chamboulement, je penserais, différent. Alors, je pense qu'on s'est plutôt soutenu quand on a décidé de pas avoir d'enfant naturellement, si je puis dire, mais que l'adoption a été plus difficile pour notre couple, définitivement.
D'accord. Mais du coup, vous n'êtes pas posé à ce moment-là la question, parce que moi, forcément, ça m'intrigue tout de suite, mais en étant étrangère, entre guillemets, en Angleterre, enfin, pas entre guillemets, parce que c'était le cas, donc pas de la nationalité du pays dans lequel vous pensez adopter, ou en tout cas, vous réfléchissez à l'adoption, ça ne vous a pas alerté?
Alors, on avait déjà fait quelques recherches très rapides, et même ici, quand on est dans le métro, il y a beaucoup de publicité pour l'adoption, en fait. Ils encouragent les gens à venir se renseigner, et il n'y a pas besoin d'avoir la nationalité anglaise pour adopter en Angleterre.
D'accord.
On n'a pas besoin d'être anglais, donc ça, on le savait déjà, on avait au moins ce renseignement. Donc, Laetitia a trouvé une réunion d'information, pas très très loin de là où on habitait à l'époque. Et voilà, c'était la bonne occasion d'aller prendre des renseignements et d'aller voir justement si notre profil n'allait pas poser problème, si on serait capable d'aller de l'avant avec eux et avec l'adoption en Angleterre. Et voilà, c'est comme ça qu'on a commencé notre chemin vers l'adoption, c'est en allant à cette réunion d'information où on nous a bien confirmé que même en étant française et n'ayant pas de la nationalité anglaise, on pourrait adopter dans ce pays.
D'accord. Et même en étant en couple, vous aviez à ce moment-là, vous vous étiez mariés. Quelles sont les lois en Angleterre par rapport à ça?
Alors voilà, on a découvert ça un peu à notre défaut, mais donc ici en Angleterre, il n'y a pas besoin d'être marié pour adopter non plus.
D'accord.
Donc on était juste en couple, tout simplement. Il y avait besoin. On nous a jamais posé aucune question sur notre couple ou sur jamais. Rien. On était juste un couple venu adopter. On s'est rendu compte du problème de la France quand on a décidé de faire les papiers après adoption, quand on a décidé de faire la nationalité française pour notre fille. Et que là, le parquet de Nantes nous a dit « Mais vous n'êtes pas mariée ?»
Ben non.
Ah ben, dans ces cas-là, elle ne peut pas être française. Donc voilà, c'est là où on s'est heurté au problème du mariage. Et donc, on s'est marié pour faire avancer les papiers d'Élie. Mais non, ici, il n'y a pas de conditions. On n'a pas besoin d'être marié. On n'a pas besoin d'être anglais. Attention, je parle avant Brexit.
Oui, voilà.
Je ne connais pas vraiment les règles maintenant, mais je parle, on était avant Brexit. Donc voilà. C'était D'accord. les règles à ce moment-là.
D'accord. Et alors, par contre, il fallait peut-être être domicilié en Angleterre?
Oui. Et il fallait obligatoirement avoir 2 chambres dans son domicile pour pouvoir accueillir un enfant.
D'accord.
C'était les conditions de base.
Alors, tu vas nous raconter ça, toutes les conditions. Juste, vous commencez votre parcours d'adoption en quelle année?
Attends. Décembre 2016 ou décembre 2017? J'ai juste besoin d'y réfléchir.
Si elle est arrivée en 2018?
Elle est arrivée en 2018. Elle est née décembre 2017.
Ah ouais, mais c'est hyper rapide.
Ah oui, c'est super rapide. et j'ai pas envie de dire facile parce que j'ai pas envie de, mais oui, c'était facile, oui. Oui, c'était pas bon, c'est de l'attente, mais il y a rien eu de compliqué. Il n'y a rien de compliqué dans notre parcours d'adoption ici, à part, bien sûr, on va aller plus loin, bien sûr, ça a été compliqué, ça a été difficile, il y a eu des difficultés, on a fait face à beaucoup de choses, mais en termes de, quand j'entends le parcours des gens qui veulent adopter en France, notre parcours a été très facile en comparaison, oui, oui.
Tu m'étonnes. Non, mais tu vas inciter des gens à l'expatriation, là.
Ben, s'il y a déjà des gens en Angleterre, peut-être que même sans être anglais. Je ne sais pas si ces conditions-là ont changé, j'avoue.
Oui, voilà. Faut se renseigner par rapport au Brexit. Ouais. Mais en tout cas, là, c'est très encourageant. Oui. Alors, vas-y, raconte-nous, du coup, comment ça s'est passé. Donc, si tu commences vous commencez en décembre 2017, ouais. Comment ça se passe là-bas? Il y a cette histoire d'agrément aussi. Enfin, raconte-moi.
Alors, donc, on a cette réunion d'information, donc, en décembre 2017. C'est vraiment très bon, c'est vraiment informatif, hein. C'est donc il y a des travailleurs sociaux, il y a des couples qui ont adopté, donc qui sont là pour nous parler, pour nous dire voilà notre chemin vers l'adoption, nos enfants, ils vont bien, enfin qui présentent leur nouvelle famille. Voilà, on nous explique en gros comment ça va se passer, le parcours. À la fin de cette réunion d'information, on nous dit prenez une semaine, 2 semaines maximum, réfléchissez. Et si vous voulez aller de l'avant, appelez-nous. Donc, le fait de dire « on veut aller de l'avant », c'est-à-dire avoir une deuxième réunion, mais cette fois-ci, nous seuls, avec 2 assistantes sociales. Et à ce moment-là, c'est plutôt elle qui pose des questions et qui décide si, oui ou non, on va être capable d'adopter au Royaume-Uni. Donc, nous, nous avons dit oui, nous sommes d'accord. Au bout de 2 semaines, il me semble, oui, d'accord, on veut bien avoir un rendez-vous avec ses assistantes sociales pour voir si on serait capable d'adopter au Royaume-Uni, pardon. Mm-hmm. Et donc, en janvier, à peu près, on a eu cette réunion avec les 2 assistantes sociales. Donc là, c'est plutôt, est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous avez un emploi stable? Est-ce que vous avez une seconde chambre chez vous? Vous n'avez pas de casier judiciaire ni ici. Alors là, les casiers judiciaires, ils ont vérifié dans tous les pays où on avait vécu pour les 20 dernières années. Donc, on a donné des preuves du Canada, de la France, du Royaume-Uni. Ça a été vraiment assez, bien sûr, complet à ce niveau-là. Mais c'est tout, en fait. Ils ont juste, c'est tous vraiment ce qu'ils nous ont demandé. Ils nous ont dit, vous savez que adopter un enfant, il va y avoir des challenges, ça peut avoir des difficultés. Est-ce que vous êtes prête à faire face? Est-ce que vous êtes prête à... Alors, ils nous mettent vraiment, pas en garde, mais ils nous préviennent vraiment que dans la plupart du temps, quand on adopte un enfant, on a toujours un contact par boîte aux lettres, on appelle ça la letterbox, avec la famille biologique. Donc, on peut choisir de ne pas le faire, mais généralement, ça se fait. C'est-à-dire qu'une fois par an, on envoie une lettre à la famille biologique et elle nous renvoie une lettre. Donc vraiment, ils veulent vraiment s'attarder sur ce côté-là. Est-ce que, pour le bien de l'enfant, vous serez capable de faire ça tous les ans, de garder ce contact-là par lettre? S'il y a des frères et sœurs, la plupart des temps, les contacts sont physiques, ce sont des vraies rencontres entre les frères et sœurs. Donc il faut être pas loin, il faut pouvoir s'organiser des week-ends si l'enfant a été adopté un peu plus loin en Angleterre, pouvoir voir, donc organiser des week-ends de temps en temps, voilà, des rencontres entre les frères et sœurs. Donc ça aussi, c'était, est-ce que vous serez capable d'apporter à votre futur enfant à faire en sorte qu'il garde le contact avec sa famille biologique. Donc voilà, il teste vraiment à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on est capable de faire, est-ce que vous souhaitez rester au Royaume-Uni, est-ce que vous êtes prêt, parce que vous n'êtes pas anglais, à faire en sorte que votre futur enfant garde ses racines, garde votre enfant sera anglais, donc c'est important que vous encouragiez tout ce qui va autour, tout ce qui va avec. Donc oui, voilà, c'était un peu ça en fait, cette réunion-là. Mm-hmm. Et c'est eux qui nous ont rappelé à peu près 1 semaine, 15 jours après, je crois, en nous disant, bah, écoutez, la réponse est positive, vous pouvez aller de l'avant, si vous le souhaitez. Et dans ces cas-là, à partir de ce moment-là, on a une assistante sociale qui est vraiment pour nous. Alors moi, j'ai le mot en anglais, je suis désolée, Constance, allocated, donc c'est qui est
dédié.
Voilà. Donc à partir de ce moment-là, on a une assistante sociale qui nous est dédiée. Et donc c'est à ce moment-là qu'on a rencontré notre assistante sociale. Et la première étape, ça a été de faire une... Donc dans vraiment, là, on est parti, après cette réunion, quand eux nous disent oui, vous pouvez adopter, vous pouvez commencer le processus d'adoption au Royaume-Uni. Là, les choses sérieuses, entre guillemets, commencent. Donc là, on est juste un mois après la première réunion d'information. Donc c'est D'accord. rapide.
C'est hyper rapide. C'est super. Et alors, par contre, tu soulèves plein de questions de mon côté parce que c'est complètement différent de la France. En fait, si je réfléchis, c'est un petit peu votre rôle. Il est un petit peu entre la famille d'accueil en France et l'adoption, où nous, chez nous, il n'y a plus du tout de lien biologique. Enfin, l'acte de naissance est complètement réécrit. Il n'y a aucune information sur la famille biologique. Mm-hmm. Il n'y a pas du tout de notion de frères et sœurs non plus. Vous, ça vous a quand même pas mal verrouillé parce que là, en gros, ce qu'on vous demandait, la condition, c'était de vous obliger de rester au Royaume-Uni.
Alors, c'est pas vraiment une condition. C'est pas vraiment une condition. C'est-à-dire que, bon, déjà, nous, notre fille n'a pas de frères et sœurs. Donc, on n'a vraiment pas de contact physique avec sa fratrie. Il n'y a pas ça. Écrire une lettre, on peut être partout dans le monde pour envoyer une lettre parce que ça passe par les services sociaux, évidemment. On a une boîte aux lettres spéciale, on envoie notre lettre et eux envoient aux parents. Ça se passe pour que vraiment il n'y ait aucun échange d'informations pour pas qu'ils nous retrouvent. C'est surtout pour pas qu'ils nous retrouvent. C'est vraiment ça. Et non, c'est surtout si vous souhaitez partir, est-ce que vous serez prêt à faire en sorte que votre enfant garde je sais pas comment expliquer. Par exemple, là, on a décidé de rentrer en France. Notre fille ira dans une école privée bilingue. Parce que pour nous, il est hors de question pour qu'elle conserve l'anglais. On favorisera les retours une fois par an. Je dis une fois par an maintenant, peut-être une fois tous les deux ans, mais on reviendra très souvent à Londres. Elle aura toujours ce contact. On fera toujours en sorte. Elle est anglaise. Elle est française avec nous par adoption. Mais notre fille est anglaise et c'est très, très important qu'elle le soit et qu'elle connaisse ses racines et qu'elle voilà, donc c'est ça qu'ils veulent savoir, si les familles sont prêtes à faire en sorte que son futur enfant garde son identité anglaise, parce que peut-être qu'ils se doutent que les gens partent, je sais pas.
Mais forcément, si vous êtes toutes les deux de nationalité française, il y a des chances pour que vous ayez envie de rentrer en France à un moment donné.
Oui. Et puis surtout que l'idée vraiment ne nous était pas passée par la tête avant d'avoir notre fille, et c'est vraiment le fait d'avoir un enfant, on se dit, ben, on rentre ben, pour le rapprochement familial, pour avoir le support déjà de notre famille qui est très important, parce qu'ici, c'est vrai qu'on n'a aucun support, pour être franche, donc on rentre ben, pour que notre fille profite de ses grands-parents, de ses cousins, on vit dans le Var, mes parents vivent dans le Var, donc on ne va pas non plus se cacher pour le cadre de vie aussi, hein, c'est vrai qu'on rentre pour tout ça, mais c'est vrai qu'on fera toujours l'effort de garder l'anglais, de faire en sorte qu'elle garde toujours ce petit côté anglais. Et nous aussi, par contre, on a aussi demandé entre-temps maintenant la nationalité anglaise.
D'accord. Parce que vous pouvez aussi, du coup, avoir la nationalité anglaise. C'est un rapport avec l'adoption ou c'est rien à voir ?
Non, ça fait 5 ans qu'on est ici, donc on peut prétendre à la nationalité anglaise, tout simplement. D'accord. Donc on s'est dit, si on demande la nationalité française pour notre fille, eh bien nous, on va aussi demander la nationalité anglaise pour elle et pour... toutes les trois, on aura la double nationalité, on pourra voyager autant qu'on veut, voilà, et toutes les trois, on partagera ce lien anglais-français, et voilà, et ça, c'est assez important pour nous.
Ouais, c'est génial. On va en revenir à cette assistante sociale qui vous est donc dédiée. Vous avez un premier rendez-vous avec elle rapidement, tu m'as dit sous un mois, c'est ça, enfin un mois après le début à peu près ?
Oui, donc un mois après le début, on a ce rendez-vous avec les deux assistantes sociales.
Avec les deux,
une semaine après ça, elles nous disent OK, on peut aller de l'avant, donc une assistante sociale va vous être dédiée. Peut-être 2 semaines après, elle était à la maison pour la première visite, juste pour voir la maison. Là, c'était vraiment, elle venait nous rencontrer en personne et voir la maison. Oui, c'était super rapide, là. On est début février, là.
Est-ce que tu sais si c'est lié au nombre, alors je sais que ça peut paraître horrible de dire ça, mais bon, au nombre d'enfants qui sont disponibles à l'adoption ?
Oui, alors je vais te dire quelque chose, mais je ne sais pas si tu vas vouloir le diffuser, peut-être pas, mais ici on dit beaucoup que les services sociaux touchent de l'argent à chaque enfant placé.
Ah, d'accord, ok. C'est perturbant.
Ouais, c'est assez perturbant. Et ça marche par borrow. Bah, du coup, si tu connais un peu, tu sais le système de borrow. Et en fait, chaque borrow, dès qu'il a un enfant d'adopter, le borrow, le council, touche une prime, en fait. Parce qu'il n'est plus sur le compte de l'État. Parce qu'avant ça, l'État paye pour la foster family, l'État paye pour tout, en fait. Mm-hmm. C'est assez choquant. Je veux dire, à ce moment-là, on n'avait pas du tout idée de ça, hein, au départ de notre adoption, mais avec le recul, on s'est rendu compte de beaucoup de choses. et on se dit waouh. Ouais, ça nous a un peu refroidi sur beaucoup de choses. Là, on est super content d'avoir notre fille, mais je pense que je repasserai pas par le. C'était assez dur de se dire que des fois les enfants sont juste. Ouais, on en parlera un peu plus tard après.
D'accord.
C'est pas quelque chose genre.
De certains,
mais ça c'est oui, ça c'est j'en suis sûre à 95%. Ouais.
D'accord, ok. Je comprends le côté relativement choquant. Effectivement, on en parlera un peu après de comment ça fonctionne. Et donc, du coup, elle arrive 2 semaines après chez vous pour visiter votre maison. Donc là, on arrive à peu près à ce qui, chez nous, ressemblerait à l'agrément.
Peut-être.
Ça ressemblerait à peu près à ça. Bah, après, ça dépend vraiment des régions. Chez nous, c'est comme chez toi, les Borough. Chez nous, c'est des régions qui sont différentes.
D'accord.
Et donc, comment ça se passe, cette visite? Donc, elle vérifie bien la deuxième chambre, si j'ai bien compris.
Franchement, elle était minuscule. Hein. On a déménagé entre-temps, mais la chambre était minuscule. Elle dit, OK, pour un lit bébé, ça ira.
Les single rooms, elles sont minuscules en Angleterre.
Voilà. Mais vraiment, c'était ridiculement petit. Elle était là, pour un bébé, ça ira. On ne savait pas si on allait avoir un bébé ou pas. Mais bon, écoute, on a dit, écoute, si ça passe, tant mieux. Hein. Et voilà, c'était juste une réunion, ça durait une petite heure. Et donc là, elle nous dit, OK, maintenant, si vous voulez aller de l'avant, on savait bien qu'on voulait aller de l'avant, mais maintenant, il y a 2 grandes étapes. La phase 1 et la phase 2. Donc la phase 1, elle nous donne un gros dossier à remplir à la main. Donc là-dessus, ils veulent tout. Ils veulent savoir comment on s'est rencontrés, comment on vit notre sexualité, qu'est-ce qu'on a fait comme travail les 10 dernières années, le nom de nos parents, de nos grands-parents, comment ils se sont rencontrés. Mais vraiment, ils creusent, ils veulent toutes les informations possibles et inimaginables sur nos vies. Ce qu'on pense de notre partenaire, quels seront ses points forts, ses points faibles. À la fin, il y a même un questionnaire avec des exemples. Si vous avez un enfant comme ça, est-ce que vous le voudriez, vous envisageriez de l'adopter, oui ou non? Donc, on va, par exemple, le premier cas, l'enfant présente des troubles de l'autisme. Le deuxième cas, l'enfant n'a pas de troubles de l'autisme, n'a pas de déficience intellectuelle. Je ne sais plus si on peut dire ça en France, pardon, Constant, je dis déficience intellectuelle, mais je ne sais pas si c'est...
Oui, tu traduis. Non, mais il n'y a pas de problème, t'inquiète pas.
Mais par exemple, l'enfant a des problèmes visuels, ou l'enfant est en chaise roulante. Voilà, il y a plein de cas de figure à la fin. On doit remplir si on accepterait ou pas ce genre de cas, ce genre d'enfant, avec quel soutien. Mais vraiment, voilà. Et il faut... Elle nous laisse au moins 2 mois pour remplir ce gros tas de papier qui est énorme et qui prend un temps fou à remplir. Et donc, quand c'est fait, vous la rappelez et vous lui dites, ça y est, j'ai rempli mon workbook. Voilà, ça s'appelait un workbook. Mm-hmm. Donc, elle le lit, elle l'étudie. Si elle a des questions, elle revient. S'il y a des choses qui ne sont pas assez approfondies, elle revient vers vous. Mais c'est assez rapide parce que la phase 2, c'est une fois par semaine, vous allez la voir dans ses bureaux. Et on refait le workbook à l'oral. Voilà, on doit répéter ce qu'on a mis à l'écrit, bêtement. Ouais. Alors vraiment très bêtement, parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ça. On était là, mais on a mis 2 mois à tout mettre sur papier. Donc à un moment donné, on répète la même chose. Alors est-ce que c'est pour vraiment savoir si on est constant dans ce qu'on raconte, est-ce que c'est parce qu'elle veut approfondir plus à ce moment-là, si elle a plus de questions, mais pas vraiment, j'ai pas eu l'impression qu'on a, mais c'est long, c'est long parce que c'est vraiment, c'est deux heures, il me semble que c'est 2 heures toutes les semaines pendant encore un mois ou deux, et là, voilà, on écrit, elle réécrit, alors c'est ça le plus fou, c'est qu'elle réécrit toutes nos réponses, et j'ai envie de dire, mais nous, on te les a déjà écrites, tu vois, mais non, elle est là, elle écrit, ok. Bon, une fois que ça c'est fini, donc la phase 2, c'est terminé. Elle parle avec sa manager, là encore, il y a peut-être quelques semaines d'attente, elle parle avec sa manager, et ensemble, elles prennent la décision de valider donc la phase 1, et la phase 2, la phase 1 est généralement automatiquement validée quand on est passé à la phase 2, mais c'est le processus, on valide les 2 phases. Si ça c'est fait, on passe au panel. Donc d'accord. Le panel, en France, ça serait peut-être un jury. Mm-hmm. Donc ça, c'est le jury numéro 1. Le jury numéro 1, ça s'est arrivé en... Attends, laisse-moi réfléchir. On est passé, je crois, en mai. Mm-hmm. Donc c'est quand même très rapide. En mai, on est passé au premier panel. Donc, on est devant une commission. Il y a des personnes, il y a des adoptants, il y a des médecins, il y a des travailleurs sociaux, je ne sais plus, mais voilà, il y a un panel de personnes qui nous posent des questions. Et à la fin de ce panel, ils décident si oui ou non nous sommes éligibles pour adopter au Royaume-Uni. Donc, à la fin de ce panel, on a l'autorisation légale, ou pas, hein, si c'est refusé, mais ou s'ils ont besoin de plus d'informations. Mais à la fin de ce panel, on a l'autorisation légale d'adopter un enfant au Royaume-Uni.
D'accord, donc là, on est vraiment sur l'agrément français.
Mmh. Voilà, voilà, donc c'est à ce moment-là, c'est après avoir passé ces deux phases, donc phase 1, phase 2. L'assistante sociale fait un travail aussi avec le panel, prépare, elle a pris ses notes, on a mis nos notes, elle prépare un rapport, et là, donc il donne tout ça, et on passe, donc on répond, ça dure une demi-heure, trois quarts d'heure devant le jury, il nous pose plein de questions, comment on va être capable d'accompagner l'enfant. C'est tellement difficile de répondre à ce stade-là, parce que ben, on ne sait pas quel enfant, quel problème, est-ce qu'il va y avoir des problèmes, quel genre de problème, est-ce qu'on peut, on va avoir un enfant, deux enfants, une fratrie, c'était peu probable parce qu'on avait une toute petite chambre, mais on sait, alors on fait au mieux, on essaie de dire, ben, on discutera, on réglera les problèmes, on discutera en couple entre nous, c'est assez difficile de répondre à ces questions.
Oui, parce qu'en fait, à aucun moment tu fais de choix, entre guillemets, hein, de type d'enfant que tu es capable ou pas d'accueillir.
Alors, oui, encore une fois, ça va peut-être paraître un peu choquant, mais dans notre bureau, non. Alors, quand on fait ces réunions d'information, tout ça, on nous ferait vraiment croire que... c'est difficile, c'est vraiment difficile, mais on nous fait croire que oui, l'enfant sera celui qu'on attend.
D'accord.
Mais j'ai envie de dire, quand on arrive à ce moment-là du panel, en fait, avec le recul maintenant, je me rends compte que non, le premier enfant qui est adoptable à ce moment-là, c'est celui qu'on vous propose.
D'accord. Il y a Mais pas tu, vraiment peux, de... tu peux refuser ou pas?
Alors, j'ai envie de dire oui, oui, on a le droit hein, de refuser absolument. Nous, on est tombé sur notre fille, le premier dossier qui nous est tombé dans les mains, c'est notre fille. Donc, ça a été très positif et ça s'est bien passé. On a été de l'avant. On a une amie qu'on a rencontrée justement durant ce cursus d'adoption qui est de Toulouse, donc une Française aussi, une Toulousaine. Et elle a dit non. Elle n'a pas eu de nouvelles des travailleurs sociaux pendant 2 ans et demi.
Ouf, d'accord, ok.
Jusqu'à ce que la travailleuse sociale en personne, qui était la même que la nôtre, hein, pas démissionne mais change de poste, et qu'une autre arrive en disant, et la rappelle au bout d'un... Alors peut-être qu'au bout d'un an et demi, la travailleuse sociale est partie, et au bout d'un an, elle reçoit un coup de téléphone de la nouvelle travailleuse sociale qui lui dit, tiens, j'ai trouvé ton dossier qui traînait un peu là, j'étais même pas au courant, est-ce que tu souhaites toujours adopter? Donc en fait, vraiment l'impression ici, c'était que c'était une grosse punition.
Oui, 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 tout à fait.
Elle avait refusé un enfant, et son dossier était passé complètement à la trappe. Donc, oui, on peut dire non, mais à quel prix? Voilà. Okay. Donc, ouais. Donc, voilà. Donc, pour en revenir au panel, donc on passe à ce panel et on attend. Après, on attend. Et là, on nous dit, on doit attendre, je crois que c'est 3 mois. Pendant 3 mois, on n'a pas le droit. Alors, à partir du moment où on passe au panel et on est approuvé en tant qu'adoptant au Royaume-Uni, on a... C'est assez affreux, mais on a accès à un site internet où il y a des enfants à adopter. Et ça, on ne peut l'avoir que quand on est adoptant légaux hein, au Royaume-Uni. Donc, on nous donne cet accès au site, on nous donne des mots de passe et on peut regarder ce grand catalogue d'enfants à adopter. La première fois que je me suis connectée, je crois qu'au bout de 5 minutes, j'ai fermé l'ordinateur, je me suis mise à pleurer, j'ai tellement pleuré, et j'ai dit, Alicia, je peux pas, je pourrais jamais faire ça. Après, on a réouvert, je pense qu'au bout de un mois, deux mois, je pense qu'ils nous ont rappelé au bout de 3 mois et demi, 4 mois pour notre fille, donc voilà, on commençait à trouver un peu le temps long, donc bon, on s'est dit, allez, courage, on regarde, voilà, qu'est-ce que notre famille pourrait être, et c'est tellement dur de voir ces enfants, surtout, il y en a des plus grands, il y en a qui ont des handicaps, c'est vraiment les enfants laissés pour compte, c'est vraiment ça, et c'est très, 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 très dur de regarder ces petits visages, de regarder ces fratries, la plupart du temps, c'est des fratries, ils veulent pas les séparer, c'est des enfants plus âgés, c'est une petite fille qui écrit sa lettre toute seule en disant, promis, je serai sage, c'est horrible, c'est très, 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 très dur de faire face à ça. Donc, on commençait un petit peu à s'impatienter au bout de 3-4 mois, mais encore une fois, notre assistante sociale a été un petit peu... dur quand on a dit bon ben peut-être qu'on on avait trouvé une petite fille qui nous plaisait en fait sur ce site, et quand on en a parlé à notre assistante sociale, parce que là nous on ne peut rien faire. Si un profil d'enfant nous plaît, on parle à notre assistante sociale qui se met en contact avec l'assistante sociale de l'enfant. Donc c'est vraiment comme ça que ça se passe. On peut pas rentrer directement en contact avec l'assistante sociale de l'enfant. D'accord. Et donc on en a parlé, et elle, c'est là où je reviens au fait que peut-être l'histoire des primes est vraie. Elle s'est vraiment mise en colère en disant qu'on adopterait un enfant du borough, donc du quartier, de la région en fait. Je sais pas comment le traduire.
D'accord.
Mais
ouais.
Voilà, elle s'est vraiment fâchée et elle nous a dit que non. Alors que légalement, au bout de 3 mois, on a le droit de commencer. 3 mois, si elle nous a pas trouvé d'enfant dans le quartier, dans lequel elle est, dans son entourage, enfin comment on dit, mm-hmm. Constance, dans son
je permets moi,
oui voilà, dans son quartier, voilà, on a le droit nous de commencer à faire des recherches par nous-mêmes ou à étendre la zone à toute l'Angleterre. Et là elle a été vraiment très méchante, mais vraiment, hein, elle nous a envoyé balader et elle nous a dit non, vous attendez, vous aurez un enfant d'ici. D'accord. Et donc là on était en fin juin, début juillet je crois. Et on a dit bon d'accord. Ben, c'est un peu difficile parce qu'à ce moment-là on dépend tellement d'eux. Enfin c'est on
oui,
peut
c'est clair.
Tellement rien faire et rien dire, mais c'est vraiment c'est très très dur comme période entre le moment où on est approuvé et le moment où on a l'adoption finalisée, où c'est fini, on n'a plus affaire à eux. Cette période-là est très 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 difficile à vivre. Donc et le téléphone a sonné, je crois, début août, elle m'a appelée, j'étais au travail, je m'en rappelle, elle m'a dit « ça y est Cécile, j'ai un dossier pour vous ». Je dis « d'accord ». Et je suis restée de marbre quand même, mais volontairement.
Tu m'étonnes. En même temps, comment elle vous avait accueilli voilà. La dernière fois.
J'ai resté de marbre volontairement pour lui. Mais j'avais envie de lui montrer aussi qu'on n'était pas forcément. Ah ben oui, mais je savais rien encore. Elle me dit juste j'ai un dossier, mais ça ne veut pas dire que qu'il va me convenir ce dossier-là. J'avais envie de lui prouver que j'avais le choix. Donc je suis restée un peu de marbre, mais là elle savait, parce qu'en fait Laetitia voulait plutôt un petit garçon dans les 2 ans et demi, 3 ans, et moi je voulais une petite fille dans les 6-10 mois. Mmh. Et là, elle le sait, elle m'appelle à moi pour me dire que c'est une petite fille de 6 mois. À ce moment-là. Donc, elle est maligne, hein. Ouais, elle est maligne. Voilà, elle n'a pas appelé Laetitia pour dire que c'était une petite fille de 6 mois. Elle m'a appelé à moi en me disant, j'ai un dossier, donc on a une petite fille de 6 mois, mais elle est en famille d'accueil, mais elle n'est pas encore adoptable. Le juge n'a pas encore signé le jugement d'adoption, je sais pas trop comment on va dire. Donc elle dit ça se passera à la fin du mois d'août, mais en attendant, si vous voulez, je vous envoie son dossier, comme ça vous regardez et vous prenez une décision. Donc voilà, et c'est comme ça que c'est parti. On a reçu le jour même le dossier de notre fille qui avait 6 mois à ce moment-là, avec toutes les informations sur sa famille biologique, vraiment toutes les informations, enfin toutes, beaucoup d'informations. Et puis voilà, donc là on a pris le temps. Et puis, c'est à partir de ce moment-là où on n'a plus dormi. À ce moment-là, on ne peut plus fermer l'œil. C'est impressionnant. On ne dort plus parce que ça travaille. On ne pense qu'à ça, quoi. On pense qu'à ça. Est-ce qu'on va être capable? Est-ce qu'on va être assez bien pour cet enfant-là? Est-ce que cet enfant-là va être bien pour nous? C'est tellement de questions. C'est tellement d'appréhension que, voilà, ça a été compliqué. Donc là, encore une fois, on doit dire oui ou non, mais c'est pas un oui ou non définitif. C'est juste si vous êtes intéressé et que vous voulez en savoir plus sur cet enfant, je vais venir chez vous avec l'assistante sociale de cet enfant.
D'accord.
Et un docteur, je crois. Ou non, c'était pas encore le docteur. Le docteur était censé venir, mais nous, le docteur, nous aurait très très intéressé à ce moment-là, mais on n'y a pas eu le droit avant une semaine avant le panel. Mais justement parce qu'on avait des questions sur les parents biologiques, évidemment, si l'enfant est placé en adoption, c'est qu'il y a des problèmes. Donc on avait vraiment beaucoup de questions sur la famille biologique, et un docteur à ce moment-là nous aurait vraiment rassuré, je pense. Ouais. Et maintenant elles sont venues toutes les deux, donc on avait dit oui, on est bien intéressé pour discuter avec vous, venez donc à la maison. Je crois qu'on avait gribouillé une dizaine de pages de questions. Écrivez toutes les questions que vous voulez. Voilà ce qu'ils nous ont dit. Écrivez. Donc nous, bien sûr, hein, une dizaine de pages, hein, parce que c'est vraiment, c'est l'inconnu total. Hein, c'est ce petit bébé qui est là, mais comment est-ce qu'elle va grandir? Est-ce qu'on va la rendre heureuse? Est-ce qu'on va être capable? Est-ce que c'est tellement, tellement de choses que... Et elles n'ont pas répondu à une seule question. Oui, une peut-être. Peut-être
oui,
une question. Et quand on a commencé à poser des questions, je me rappellerai toujours, Laetitia lui a dit, mais c'est quand même normal qu'on ait des questions, parce qu'il y a quand même des, ben, il y a quand même des troubles, des problèmes importants chez les parents biologiques qui font qu'on se pose la question de, c'est normal, c'est, je veux dire, c'est notre vie qu'on engage ici aussi, oui, et sûr. C'est, et elle nous a envoyé balader en nous disant qu'on n'aurait pas d'enfant parfait.
Oui, mais on lui a dit, mais bon.
Voilà, on ne cherche pas, on ne veut pas d'enfant parfait, mais aucun enfant n'est parfait. Même si on l'avait porté, notre enfant, il ne serait pas parfait. Mais, mais on a quand même le droit, je veux dire, à un moment donné, mais on ne peut rien dire. Ou alors oui, on peut dire quelque chose, bien sûr qu'on peut dire quelque chose, mais encore une fois, à quel prix? On est tellement loin dans le processus. On a ce dossier dans les mains. Vous voyez comme il vous tient dans un sens, c'est dur, bien parce sûr. Que là, le cœur, il y est déjà, quoi, en fait. Voilà. Donc, on a décidé d'aller de l'avant, ils nous ont promis, vous allez voir le docteur, vous allez voir le docteur, vous allez voir le docteur. Donc là, quand on dit oui pour l'enfant, il y a un deuxième jury, un deuxième panel. Et ce panel-là, c'est celui qui décide si oui ou non l'enfant va être placé avec vous.
Donc, oui, d'accord. Donc, la décision, elle n'est pas finale, même quand tu as le dossier dans les mains.
Non, pas du tout. La décision n'est pas finale quand on a le dossier dans les mains. Donc, on a dit, on a quand même pris le temps hein, de se décider, de discuter. Et puis, pas tant de temps que ça, parce qu'elles sont venues mi-septembre. On a dit, on a peut-être pris une semaine, deux semaines pour réfléchir et pour dire oui. En octobre, on est passé au panel. Hein.
Ah oui, d'accord. Ça va vraiment super vite.
Ah, ça va très, très vite. D'où encore le fait de la question, est-ce qu'ils ne veulent pas vraiment placer leurs enfants très, très vite? C'est quand même hallucinant, le laps de temps qu'ils sont capables de... Ça va très, très, très vite. On n'a même pas le temps de réfléchir. Du coup, on s'est retrouvés au panel. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'une semaine avant ce panel-là, on a enfin pu voir le docteur. Avec qui on a une discussion et c'est pas facile. C'est pas facile d'entendre tout ce qu'elle a à dire parce que c'est l'avenir de l'enfant, c'est notre avenir à nous. Est-ce que ça va aller tout simplement. Alors non, on veut pas un enfant parfait, mais est-ce qu'elle va être capable d'être autonome? Est-ce qu'elle va être capable? Elle a que 6 mois, hein, vous savez, on peut pas savoir grand-chose.
Ben non,
elle, elle va bien, elle est en pleine forme, c'est un petit bébé de 6 mois, tout ce qu'il y a de plus mignon, elle fait tout ce qu'il y a à faire à son âge, mais elle a 6 mois, donc... Et il y a aussi la famille, la première fois, donc à ce panel, pas à ce panel, une semaine avant le panel, on rencontre la famille d'accueil, parce que notre fille a été enlevée à 4 mois de sa famille biologique. D'accord. Et donc là, ça faisait 2 mois qu'elle était avec sa famille d'accueil. Donc, la dame est là et discute un peu, donc ça prend vraiment ce côté réel. Là, on parle, on sait qu'une semaine après, on est au panel, donc une semaine après, ben, ils vont dire oui ou non, cet enfant est placé avec vous pour adoption définitive. Donc, on parle de quel lait elle prend, quelle taille de couche, parce que nous, on n'a pas de chambre, on n'a rien, parce qu'on peut rien acheter, parce que s'ils nous disent non.
Ben oui, bien sûr.
Parce que si on achète un lit bébé et qu'on nous dit non et qu'un mois après, on passe pour un enfant qui a 4 ans.
Ben bien
donc,
sûr.
Donc, c'est vraiment... on est là, bon d'accord, quelle taille elle fait, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle aime pas, est-ce qu'elle a des allergies, on sait rien. Donc elle nous parle, elle nous rassure, la famille d'accueil était vraiment en or, elle était vraiment adorable cette dame. Et donc du coup, on fait comme on peut, hein, ça dure 1 heure, 2 heures, on sort de là complètement chamboulé, vraiment avec encore plus de questions qu'on en avait, qu'on pensait en avoir. On pensait avoir toutes les questions du monde et en fait non, on en a encore plus. et voilà, et une semaine après, on est au panel. Une semaine après, on est au panel et on nous dit, encore une fois, on nous pose plein de questions. Comment vous allez faire? Il y a une chose qui m'a choquée, en fait, mais vraiment, c'est parce que, bon, pour vous dire, ça me dérange pas du tout d'en parler d'ailleurs, c'est que le père biologique de notre fille est peut-être autiste, parce qu'il s'est déclaré autiste, mais on n'arrive pas à trouver les rapports médicaux qui le prouvent.
D'accord.
Donc c'est quand même assez compliqué, mais oui, il a un certain retard mental. Et donc du coup, quand on était au panel, on nous a dit, mais comment vous allez faire pour l'avenir de votre fille à l'école? Alors, on ne s'est pas caché que nous, bien sûr, on allait parler français, mais qu'on allait continuer évidemment à parler anglais. Et on lui a dit, ben, on aimerait bien la mettre dans une école bilingue, c'est ce qu'on voudrait, c'est là où elle est aujourd'hui et c'est là où elle sera demain en France. Et on nous a dit, mais vous vous rendez bien compte qu'elle n'en sera peut-être pas capable? Voilà, et j'ai envie de leur dire, mais voyons quoi, on est ok, c'est bien de nous le dire, enfin, on a eu un dossier, on a parlé avec un docteur, on sait où on va plus ou moins, mais vraiment, enfin, c'est choquant quand même, c'est dur de se faire dire ça, c'est
bien sûr.
Et donc ben, je dis, ben, écoutez, on verra, mais en tout cas on le donnera tout ce qu'elle a besoin pour qu'elle y arrive. Et puis, si elle n'y arrive pas, le principal, c'est qu'elle soit autonome et heureuse. Voilà, c'est tout ce que nous, ça sera notre but dans la vie, qu'elle soit un minimum autonome. Si vraiment elle doit avoir un retard, eh ben qu'elle soit autonome, qu'elle puisse un minimum être heureuse. C'est tout ce qu'on veut. Mmh. Et mais ça fait tellement mal de devoir répondre ça, parce que c'est déjà dans une partie de votre cœur, c'est déjà votre fille là, c'est déjà votre enfant, donc c'est difficile en fait. Et voilà, mais non, à la fin du panel, on nous a dit ben c'est bon, elle sera avec vous dans 3 semaines. D'accord. Donc là, on va tout acheter parce que quand même, on n'a rien
du tout. Oui, bien sûr, ça va vite. Hein.
Très vite. Donc là, on va tout acheter. On se prépare mentalement le plus possible, même si c'est très, très difficile. On ne sait pas. On a beau se préparer, on ne sait pas à quoi s'attendre, pour être franche. Donc, et ensuite, on a nos 10 jours. Alors ici, ils vont dire introduction. Donc, introduction avec la famille d'accueil. C'est-à-dire que le premier jour où on va rencontrer notre fille, on y passe juste une petite heure. Donc, on arrive chez la famille d'accueil, on est accueillis, on rentre. Donc, je me rappelle, Hayley, notre fille, était dans ses bras, elle nous a regardé un peu bizarre, elle était là, c'est qui, c'est de là. Donc, elle avait presque 9 mois. Donc, c'est 3 mois après avoir eu son dossier. Et là, on reste juste une petite heure. Donc, nous, on avait apporté des petits jouets bien colorés qui faisaient du bruit. Donc, elle avait beaucoup aimé. Elle jouait avec. Ensuite, elle était assise sur le tapis. Elle nous disait, vous voulez lui donner à manger? Donc, voilà, elle avait pris son petit goûter. On était resté juste une heure et on était rentrés. Et le lendemain, on était resté 2-3 heures. Le jour d'après, on va faire une balade au parc avec la famille d'accueil et elle nous laisse une petite demi-heure, une heure seule avec la petite. Ensuite, elle revient. Et le jour 4, il me semble, elle vient à la maison, la famille d'accueil. Elle est venue, la dame à la maison. Elle est restée le temps pour voir si Hayley allait bien, si elle s'y faisait, si elle ne la cherchait pas trop. Et doucement, elle s'est reculée, elle est partie. Et nous l'y avons ramenée le soir. Et à partir du jour d'après, on avait la possibilité d'aller la chercher le matin, de la ramener à la maison et de la ramener le soir. On ne pouvait pas l'emmener à la maison avant qu'elle soit venue une première fois avec la famille d'accueil pour pas la perturber dans son...
Bien sûr.
Voilà. Et donc voilà, à partir de ce jour-là, jour 5, 6, 7, 8, 9, 10, on a fait des routines aussi, pardon. On a fait des routines, on a fait une matinée, donc un réveil. Il faut savoir que Hayley se réveille à 5h30, 6h du matin et depuis ce jour-là et depuis toujours. Hein, c'est pas une grosse dormeuse. Donc on s'est fait un réveil là-bas à 5h30 du matin pour la réveiller. C'était assez fun. Et on a fait aussi un coucher. Donc on a pris le bain, on a fait un coucher pour vraiment voir toute sa routine, pour être capable de reproduire ça parce que je pense que c'est important les premiers temps de vraiment respecter la routine de l'enfant pour pas qu'elle soit trop trop perturbée.
Bien sûr.
Et voilà, jour 10, il demande de faire ça en 5 minutes. Il demande vraiment pas de larmes, pas d'effusion. Vous venez, vous prenez l'enfant, vous partez. J'ai fondu en larmes dans les bras de la... Mais comment faire? Elle était en larmes, la dame. Elle y avait mis tout son cœur pendant 6 mois. C'était son premier enfant. C'est la première fois qu'elle était... Elle faisait famille d'accueil. Elle pensait pas s'attacher autant. Elle a plus jamais fait d'ailleurs parce que elle s'est rendue compte de la difficulté de laisser l'enfant partir, en fait. Donc voilà. Donc, on est arrivé. Bonjour, bonsoir. Ça a été très, très vite. On a pris Hayley. On a fait un gros câlin. Merci pour tout. Et on est parti. Et voilà, et ça, c'était le 15 novembre 2018.
D'accord. Donc, un process hyper rapide, hyper intense.
Super.
Ouais. Assez perturbant aussi, hein, faut le dire.
Assez perturbant, oui.
Dans l'exécution, oui, c'est clair. Je suis un peu chamboulée, là, pour te dire, tu vois.
Je suis désolée.
Ah non, mais attends, t'excuses pas.
Voilà. Et puis voilà, oui, non, c'était assez express. Et normalement, au bout de 10 semaines, après le placement de l'enfant, on peut déjà faire une demande d'adoption définitive.
Ah oui, oui, c'est vraiment... C'est tout en express, c'est dingue. Ouais.
Alors nous, on ne l'a pas fait parce que... on l'a pas fait de suite parce qu'on n'avait pas le passeport d'Hayley. Et l'assistance sociale d'Hayley était très mauvaise. Mais vraiment, vraiment très mauvaise. Une fois, elle est arrivée ici avec des papiers... qu'on avait besoin pour Hayley, un acte de naissance, ou je ne sais plus, parce qu'on a beaucoup de papiers à faire à ce moment-là, et on ne peut rien faire sans l'aval des services sociaux. Donc, et elle est venue, une fois qu'elle est partie, on s'est rendu compte qu'on avait le dossier d'un autre enfant. Des choses comme ça qui sont complètement inacceptables. Et donc, elle était très mauvaise, et elle traînait pour son passeport. Mais les parents biologiques, ils s'y opposent, mais en même temps, ils n'ont plus le choix, parce qu'ils sont plus... dans le décor. Là. Enfin, je veux bien, hein, bien sûr, ce sont ses parents biologiques, ils font partie de sa vie, ils font toujours partie de sa vie, mais ils sont plus dans le décor là tout de suite. Je veux dire, on a besoin de son passeport et surtout que nous, à cette époque-là, en étant toutes les deux françaises, si on adoptait Ellie perdait sa nationalité britannique.
D'accord.
Donc, c'était très important pour nous qu'elle ait son passeport, qu'elle soit reconnue anglaise pour pouvoir continuer le processus. Donc, du coup, on a bloqué. On a dit non, on pouvait demander l'adoption en fin janvier, il me semble, ou début février. Mm-hmm. Et on a attendu jusqu'en avril pour le faire. Mai, pardon. On a attendu en mai l'année d'après quand on a eu le passeport d'Ellie pour lancer la procédure. Un mois après, on a reçu la lettre du juge disant qu'un mois après, on avait le jury. Donc, d'accord. En juillet 2019, le 29 juillet 2019, on a eu l'adoption définitive d'Ellie.
D'accord. Oui, donc en fait, un an quasiment, jour pour jour, non, un petit peu plus d'un an après le début du parcours.
Ouais.
Waouh.
Ça va vite, hein?
Ça va super vite. Non, mais c'est assez bluffant.
Après, tant mieux, c'est encourageant pour les couples ici qui veulent l'adopter si c'est encore comme ça. Et c'est vrai que c'est encourageant parce que notre fille va super bien, elle est adorable et... Bon, c'était juste parfait, c'était juste le match. Finalement, c'était parfait. Quoi.
C'est, oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Mais c'est vrai que ça pose des questions quand même. Enfin, tu vois, tu te dis, mais en fait, qu'est-ce qu'ils savent de ces enfants? Est-ce qu'ils ont le temps d'en savoir plus? Est-ce que ces enfants ne sont peut-être pas enlevés un peu vite à leur famille? Enfin, tu vois, tu te poses plein de questions du coup.
Complètement. Complètement. Ouais. Je pense sincèrement qu'ici, les familles biologiques n'ont pas beaucoup. Une fois que l'enfant est placé, est enlevé, je pense qu'elles n'ont pas beaucoup de chance de prouver qu'elles sont capables de le récupérer.
C'est dur.
Ici, le fait que les parents... Alors ça, c'est la différence avec la France. Hein, le fait que les parents biologiques s'opposent à l'adoption n'a aucun pouvoir. C'est les services sociaux qui ont tous les pouvoirs. Une fois que l'enfant est pris, les parents biologiques n'ont plus aucun pouvoir. Aucun.
Ouais, c'est terrible.
Donc c'est vrai que avec Laetitia, on a ce côté où je sais, alors je j'ai jamais vécu, je connais pas de couples qui ont adopté en France et qui ont peut-être un parcours différent, mais je sais que pour nous, même si on n'a aucun contact physique et qu'on n'en veut pas parce qu'on ne sait pas ce qu'il ferait, on ne veut certainement pas voir ses parents maintenant. Quand elle sera plus grande, si elle le demande, ça sera quelque chose de complètement différent. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est hors de question. Mais on n'arrêtera pas ces letterboxes, on n'arrêtera pas ce contact-là, parce qu'on, au-delà du fait que c'est notre fille, on a de l'empathie. On a beaucoup d'empathie parce que finalement, c'est ses parents biologiques et ils auront toujours une place. Et un jour, elle va demander. Et c'est important pour nous de lui dire, regarde chérie, on t'a adopté, ils n'étaient peut-être pas capables de s'occuper de toi, mais on a tout fait pour qu'aujourd'hui, ça se passe bien et qu'aujourd'hui, si tu as envie, si tu as envie d'aller les rencontrer, si tu as envie d'avoir ton dossier, si tu as envie d'en savoir plus, eh ben on sera là et on t'a accompagné depuis le jour où tu as passé notre porte et on t'accompagnera jusqu'où tu veux aller. Donc ça, c'est très, très important pour nous.
Et cette première letterbox, alors du coup, elle arrive quand?
Alors, il demande de choisir un mois dans l'année, mais qu'il faut éviter décembre parce que c'est Noël. Et le mois de l'anniversaire. Nous, on s'était dit, on va le faire en septembre. On va le faire en septembre parce que ça tombe bien, c'est la rentrée. On peut attendre mi-septembre pour raconter comment la rentrée s'est passée. Bon, elle était encore petite, mais c'était dans nos têtes pour le futur. On peut raconter les vacances d'été. On peut raconter plein de choses, en fait. Il se passe, c'est un peu le début, c'est la rentrée, on envoie une lettre. Donc, on a eu l'adoption finale en juillet 2019. Et en septembre, on a essayé de contacter justement donc c'est un autre service, des services sociaux, c'est complètement une autre équipe qui s'occupe de ça. Mmh. Et on est resté sans réponse, mais vraiment sans réponse, appel. On a tout fait nous pour essayer de les contacter, pour essayer d'envoyer notre lettre. Et ils sont revenus vers nous en mars l'année d'après en nous disant, il serait peut-être temps d'envoyer la lettre.
Oh purée.
Ouais. On était oui, bien sûr, c'est vrai qu'en effet, il serait temps. Ouais. Donc maintenant, c'est mars parce que
ça s'est fait comme ça.
C'est mars du coup. Ouais, ça ne change pas grand-chose quoi. Donc du coup voilà. Mais pour vous donner des exemples, la première année, avant qu'Ellie soit officiellement adoptée, ils peuvent beaucoup appeler, la famille biologique peut encore beaucoup appeler l'assistante sociale d'Ellie, parce que c'est toujours elle, finalement, qui a le, tant que nous, on n'a pas l'adoption finale, c'est toujours elle qui a l'autorité parentale, dans un sens, on partage l'autorité parentale jusqu'à l'adoption finale. Et donc, les parents biologiques l'appelaient beaucoup, avaient des habits, ils achetaient beaucoup d'habits, de jouets. Elle a tellement mis de temps à nous l'apporter. Quand elle nous allait apporter les habits, ça n'allait plus. Je crois qu'on a eu les habits, elle avait 2 ans. 2 ans, et c'était dû 12 mois, je sais plus vraiment, ça n'y allait plus, en fait.
Ouais, ça montre bien la considération pour la famille biologique.
Complètement. Écoute, récemment, j'ai eu un appel qui m'a vraiment choquée. C'était, on est novembre, alors peut-être cet été. Donc la dernière letterbox qu'on a envoyée, la dernière lettre, on parle souvent de ce qu'elle aime, de ce qu'elle fait, en ce moment, évidemment, c'est la Reine des Neiges, hein, elle va faire 4 ans. Donc on dit, elle adore la Reine des Neiges, elle a la robe, elle se met debout sur le canapé, elle fait son concert, elle adore chanter Let It Go, on parle en anglais, donc on raconte un petit peu, c'est difficile un peu, donc on raconte les choses un peu banales et les choses un peu amusantes qu'elle fait au quotidien. Et donc, je reçois un appel, donc ça c'était en mars, cet été je reçois un appel de cette dame de l'équipe des Letterboxd, et elle me dit, écoutez, j'ai reçu un petit colis de la part des parents, et le problème c'est qu'on n'envoie plus de colis, on n'envoie que des lettres. Donc ils ont envoyé 7 ou 8 livres de La Reine des Neiges, donc je vais vous dire les titres, vous en choisissez un, et je leur renvoie le reste. Et là je lui dis, pardon. Je dis, mais enfin, vous vous rendez compte? Enfin, après, ce sont des personnes qui vivent quand même sur les aides sociales. C'est quand même un geste, mais un geste qui a dû quand même leur coûter quelque chose. Ouais, et je leur ai dit, bah, écoutez, vous savez, ça m'embête un peu parce que nous, on a cette boîte immense dans le grenier là où tout ce qu'ils ont envoyé, à part le super vélo machin quand elle était petite qui prend une place folle qu'on n'a pas gardé, mais tous les lettres, tous les petites choses qu'ils ont envoyées, elles sont dans cette boîte, et c'est important pour nous qu'il soit là et qu'il soit à sa disposition si on a envie de regarder. Parce que dans le futur, est-ce que c'est plus facile de dire « ils t'ont abandonné » ou est-ce que c'est plus facile de dire « ils t'ont toujours aimé mais ils n'ont pas été capables de s'occuper de toi » ?
Oui, clairement.
C'est quand même plus facile de dire « regarde, ils ont toujours été là, ils n'étaient pas capables, mais ils t'aiment ». Elle ne se sentira pas abandonnée, elle ne se sentira pas délaissée, elle se sentira aimée, je l'espère, par quatre parents finalement. Et, c'est quand même important pour construire son avenir d'avoir cette sensation, pas cette sensation d'abandon, comme beaucoup de fois, les enfants adoptés qui ont été abandonnés à la naissance, qui passent des années à essayer de… Vous voyez ce que je veux dire ? À essayer de retrouver leurs parents. Et donc, je lui dis « mais c'est… Non, est-ce que je peux venir ? » Elle me dit, ah oui, si vous venez dans ces cas-là, je vous les garde. Donc voilà, me voilà me déplacer à leur bureau dans le centre de Londres pour aller récupérer le dossier. Aucune considération, vous vous rendez compte, l'impact sur eux. Et puis surtout, ils auraient peut-être pensé que c'est nous qui les avions refusés.
Bien sûr, bien sûr.
Alors, dans 10 ans, dans 20 ans, quelle image ça donnerait aussi ? Quelle relation ? Parce qu'imaginons qu'elle veuille les rencontrer. Imaginons que dans 20 ans, ils fassent accessoirement partie de notre vie, parce qu'on ne sait pas, et ça sera, c'est une décision qu'on prend quand on prend la décision d'adopter son enfant. Mais nous, on veut une bonne relation, c'est super important.
Bien sûr. Bien
et sûr. Comment est-ce qu'on construit une bonne relation en renvoyant les cadeaux qu'ils ont envoyés à leur fille?
Non, c'est terrible. C'est terrible.
Voilà.
Est-ce qu'ils ont un droit de réponse à cette letterbox?
Oui, ils ont un droit de réponse. Ouais.
D'accord. Ouais. Ok.
Donc oui, ils ont un droit de réponse la plupart du temps. Ils écrivent où ils habitent, ils sont pas censés, donc les lettres sont renvoyées, mais finalement ils la rendent. Enfin bon, c'est pas très très bien organisé. Mais donc voilà, oui, ils ont un droit de réponse. Donc ils nous disent leur équipe de foot préférée. C'est anglais, donc ils parlent beaucoup de foot. Donc leur équipe de foot préférée, qu'elle leur manque, qu'ils pensent à elle, qu'ils sont contents. Alors généralement ils répondent ligne par ligne. Si on a écrit elle adore danser, on est content que tu aimes danser, elle fait de la danse, on écrit elle fait de la danse le samedi matin, elle adore mettre son tutu, on est content que, voilà, ça reste léger parce que, voilà, voilà. Mais oui, ils ont droit de répondre et ils le font plus ou moins. Ils envoient des cartes à tous ses anniversaires. Donc là, cet été, j'ai récupéré sa carte d'anniversaire pour ses 2 ans, ses 3 ans. Elle va en faire 4. Donc ça fait 2 ans qu'ils avaient la lettre de ses 2 ans.
Bon, je savais que les services sociaux anglais, c'était compliqué, ça se vérifie bien.
Ouais, et du coup, c'est vrai qu'avec le recul, alors quand on est dans le processus d'adoption, on a tellement, finalement, on a peur, on a peur de ne pas avoir l'enfant, on a peur qu'on nous oublie, on a peur que si on dit un mot de travers, ben voilà, ben comme notre ami, son don d'ici s'est passé à la trappe, ça s'est complètement vérifié. On est tellement dans ce système de web et de peur qu'on dit rien, mais avec le recul, il y a des choses assez choquantes. Il y a des choses
complètement. Complètement. Je t'avoue que ouais, je suis assez.
Il y a des choses assez choquantes. Mais à côté de ça, voilà, on a eu la chance. On a eu beaucoup de chance d'avoir notre petite fille qui va super bien, qui a tellement d'énergie, on est tellement fatigué.
C'est bon signe.
Ouais, voilà. Non, elle est pleine d'énergie. Elle est en école bilingue à Londres. Elle français super, anglais elle commence, elle est un peu flemmarde sur l'anglais, elle préfère un peu le français je pense, mais ça c'est notre faute, on parle toutes les deux français à la maison.
Oui.
Elle le comprend bien, mais elle aime pas trop le parler pour l'instant. Mmh. Et voilà, non tout va bien, tout va
d'accord.
Bien. Et...
Mmh. Bon, ça reste une très très belle histoire, hein. C'est
oui,
une très belle rencontre.
Bien sûr.
C'est vrai que c'est ça qui est hyper intéressant dans cet enregistrement notamment, et c'est pour ça que je t'ai sollicité, c'est que c'est très intéressant de voir les différences entre les pays, donc les différences sociales entre les pays, et ça permet aussi de mieux comprendre peut-être, tu vois, le parcours français qui est plus long, qui est complètement différent, mais qui n'engage pas les mêmes choses en fait, tu vois.
Oui, oui.
Parce que nous, le rapport avec la famille biologique, il n'y en a pas.
D'accord.
L'enfant est né sous X, il n'a pas d'acte de naissance avec ses parents dessus. Tu vois, et quand c'est un retrait d'enfant à placer potentiellement à l'adoption, il passe par une famille d'accueil. Bon, après, je suis pas une spécialiste, hein, mais c'est même pas dit qu'il soit mis à l'adoption, en fait, cet enfant qui est placé en famille d'accueil. C'est complètement différent. Les parents biologiques ont un vrai droit en France.
Oui, mais c'est. Je trouve que c'est la considération pour les parents biologiques.
Mais c'est surtout qu'on a l'impression que ça peut aller tellement vite chez vous.
Ouais. Alors ils étaient là hein, le jour du jury. Donc en fait, pas avec nous, hein, mais le jour de l'adoption finale, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand nous on a fait la demande d'adoption finale, la juge donc a reçu notre demande et leur a envoyé donc l'information, leur a dit qu'on voulait nous adopter définitivement Hayley, donc qui pouvait se présenter le jour du tribunal et prouver. Parce que depuis que l'enfant leur avait été enlevé, et jusqu'à l'adoption finale, ils sont aussi suivis par un travailleur social, prouver qu'ils avaient changé leur situation assez pour être capables de reprendre l'enfant. Donc, on leur laisse quand même une chance à ce moment-là. Donc, bien sûr, quand ils sont arrivés, rien n'avait changé dans leur situation. Les services sociaux nous avaient prévenus, mais bon, on a toujours quand même peur, j'avoue, hein, mais les services sociaux nous avaient prévenus. Rien n'avait changé du tout dans leur situation. Donc la juge a dit l'enfant, votre fille est bien maintenant dans sa famille adoptive, qui est stable, qui lui apportera quelque chose que vous pouvez peut-être ne pas lui apporter. Donc voilà, elle nous a donné l'adoption finale, mais ils étaient là et peut-être qu'il y a des parents qui sont capables à ce stade-là de se défendre, mais j'ai pas beaucoup l'impression qu'on leur laisse une chance de se défendre.
Non, mais la confrontation doit être rude, hein, pour vous comme pour eux, hein. Ça doit être difficile.
Ouais. Et c'est pour ça que d'où l'importance de garder d'avoir de l'empathie à ce niveau-là. C'est parce que nous, le lien n'est pas coupé. Alors, on n'est pas coupé. Oui. On peut arrêter d'envoyer de la letterbox. Hein. C'est pas obligatoire. Hein. Alors peut-être qu'ils vont un petit peu nous courir après si on l'envoie pas. C'est absolument pas obligatoire, comme ce n'est pas obligatoire pour eux de répondre.
D'accord.
On pense que pour son bien. Pour le bien de notre fils, c'est important de le faire puisqu'on peut le faire. Mais c'est un choix. On peut couper les liens avec la famille biologique si on le souhaite.
D'accord.
Donc.
Et je t'ai pas demandé, Hayley, elle a des frères et sœurs ou pas ?
Non.
Donc c'était le premier enfant. Okay.
Par contre, on nous a dit si la mère tombe enceinte, c'est vous qu'on appellera en premier. Donc ils pensent déjà à l'adoption de leur enfant si elle tombe enceinte avant même qu'elle ait eu la chance.
Oui, de prouver.
De prouver qu'elle était capable de s'occuper de cet enfant-là.
Oui, une fois que tu es dans le collimateur des services sociaux.
Complètement.
C'est terrible.
Donc, on nous avait dit, si elle tombe enceinte, on vous contacte de suite. Donc, en fait, en vrai, l'enfant ne passait même pas par une famille d'accueil, c'est-à-dire qu'à la naissance, je pense que si elle tombe enceinte et qu'on dit oui, on nous le place à la naissance. Après, je n'ai pas dit qu'on allait dire quoi que ce soit, mais ça pourrait se passer comme ça.
Oui, bien sûr.
Ça pourrait se passer comme ça, à la naissance. Comme ça, on évite ce qui n'est pas plus mal pour l'enfant en général. C'est vraiment, il y a un problème dans la famille biologique et que l'enfant est en danger. C'est pas plus mal qu'il ne passe pas par l'étape famille d'accueil et qu'il soit directement adopté avec son frère ou sa sœur. Mais, vous voyez, parce que la dernière fois, elle est venue une fois à la stand sociale d'Hayley, elle a dit, la mère, elle est un peu grossie, peut-être qu'elle est enceinte. Bon, on vous contacte, hein. Et puis là, je lui dis, mais, vous vous rendez compte qu'on n'a pas de troisième chambre parce que c'était une condition. Au début, on avait dit peut-être qu'on voudrait une fratrie. On ne savait pas. Et on nous avait dit, ben non, vous n'avez qu'une chambre. Donc, vous n'en aurez qu'un. Mm-hmm. Et là, je lui dis, ben, vous parlez de nous en placer un deuxième, mais on n'a pas de la troisième chambre. Oh, vous inquiétez pas, les enfants, ils aiment bien être ensemble. Ah là, elle avait changé de cadre.
Ah oui,
là,
le discours était différent.
Là, le discours était complètement différent. Et là, c'est non, mais vous inquiétez pas. Ils aiment bien être dans la même chambre. Mais bien sûr, un nouveau-né avec une petite de 4 ans. Oui, elle va être contente, oui. Elle va être contente toutes les 3 heures, ouais. Quand il va se réveiller pour. Non. Non, enfin bref. Les services sociaux, c'était ridicule.
Ouais, non, mais c'est clair, c'est clair. Enfin, j'en rigole, mais c'est, je rigole, je, ah, non, je précise.
Oui, non, mais complètement. C'était ridicule. C'est ridicule. Enfin, voilà. Mais non, pas de frères et sœurs. Donc, déjà, au moins, j'ai envie de dire au moins pas ça, parce que j'avoue que le contact physique, là, notre amie, là, donc, qui est passée à la trappe, elle a finalement, donc, avec cette nouvelle assistante sociale, une petite fille de 2 ans et demi, qui a 2 frères plus une demi-frère, un demi-frère plus une demi-sœur. C'est l'angoisse, hein. Ils veulent se voir tout le temps. Alors, ils sont tous les 3 dans des différentes familles. Donc, ils doivent faire des week-ends. Et en fait, elle me dit, alors, comme elle n'a pas encore l'adoption finale, elle aussi, elle a peur. Elle, dans le même cas qu'on était avant, elle n'ose pas dire non. Mais à chaque fois que sa fille voit ses frères, eh ben, elle rentre, elle est distressée, on va dire. Elle va pas bien, en fait. Elle revit la séparation à chaque fois. Et donc, mais elle a peur. Elle a peur de dire non parce que justement, ici, ils demandent tellement d'encourager ça que tant qu'elle a pas l'adoption finale, mais là, je croise des doigts pour elle, c'est le 29 novembre, donc elle devrait bientôt être tranquille. Mais voilà, elle a peur, mais la petite, à chaque fois qu'elle sort de là, ben, ça va pas, quoi. Elle me dit pendant des jours, c'est des crises, ça va pas.
Ouais, c'est terrible.
Ouais. Donc voilà.
Ok. Bon, en tout cas, ça reste une belle histoire.
Oui. Non, bien sûr.
Mais c'est vrai que voilà, on se rend bien compte des différences fonctionnelles entre les pays et c'est rassurant finalement sur notre process d'adoption en France. Ouais. Et peut-être que finalement tout le monde ne va pas s'expatrier pour avoir un enfant en Angleterre.
C'est vrai.
Je pense que ce sera peut-être la conclusion.
Ouais, finalement.
Mais en tout cas, je te remercie beaucoup, Cécile, d'avoir bien voulu te livrer sur cette adoption et sur l'arrivée de votre petite Hailey chez vous. Et puis, écoute, si ça te dérange pas, peut-être que je donnerai ton compte Instagram aux personnes qui viendront vers moi pour avoir un peu plus de renseignements sur l'adoption en Angleterre.
Ok, pas de problème. Ça me fait plaisir.
Merci beaucoup. Selon une étude nationale britannique publiée en novembre 2018, un enfant sur 8, au cours de l'année 2017, a été adopté par des couples de lesbiennes ou de gays au Royaume-Uni. Les chiffres ont été analysés et il en ressort que l'adoption a baissé de 30% depuis 2015 au Royaume-Uni, passant de 5360 adoptions à 3820. En revanche, elle reste stable pour les couples de même genre, avec environ 450 enfants adoptés par an par nos familles. Comme le précise Cécile, les conditions ont dû changer depuis le Brexit, donc je vous invite, si vous souhaitez vous tourner vers une adoption au Royaume-Uni, à vous renseigner auprès des autorités compétentes. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à le faire découvrir. Et moi, je vous retrouve sur le compte Instagram du podcast, @lesenfantsvontbienpodcast, pour poursuivre la discussion autour de ce sujet ou en commencer de nouvelles. Je vous souhaite une très belle fin de semaine et vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode du podcast Les Enfants vont bien. Guess it's only been a year, but still it feels like 34. I don't feel like I am living in the same skin anymore. Now hold my hand, hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, feels less alone, less alone.
Josephine. Even when my soul's an amputee and my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest, so I grab what I can cling to and I leave behind the rest. I'll hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ, please tear my heart out.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.